France Inter.
C'est la bande originale, soyez les bienvenus sur France Inter avec Tanguy Pastureau, avec Emma Beaujean, Camille Lava, Daniel Morin, Olsena est avec nous et nos invités aujourd'hui, Pauline Clément et André Dussolier.
Non, mais...
oh. France Inter, la bande originale. Leïla Kaddour.
Bonjour André, bonjour Pauline.
Bonjour.
Comment ça va ?
Très bien, très bien, très bien. Heureux de vous voir et de vous retrouver.
Ça fait tellement longtemps que vous n'étiez pas venu.
Mais ça fait un petit moment.
Quand même, ouais. Il y avait... Non, mais c'est vous faites tout maintenant. Vous commentez, vous applaudissez. Vous...
Ah non, mais vous êtes venu plus récemment que ça quand même.
Chaleureuse comme d'habitude.
Ouais, et on est ravis de vous accueillir tous les deux pour parler de Chers parents, ce film qui sera en salle ce mercredi. Le premier long métrage d'Emmanuel Patron, qu'il a coécrit avec sa sœur Armelle. C'est une histoire de famille et justement, il est question de la famille dans ce film, puisque... on va parler de cette famille incroyable où tout d'un coup, une somme d'argent colossale arrive dans cette famille, on va le dire comme ça dans un premier temps, un gain énorme et ça va venir perturber absolument tout l'écosystème et tout le monde va se révéler d'une façon assez inattendue. Je vous regarde Pauline parce que votre personnage est assez savoureux de ce point de vue-là. Oui. Petite question tour de table, est-ce que dans vos vies, vous avez de l'argent, ça je vous le souhaite un petit peu, suffisamment en tout cas, vous avez gagné de l'argent, on vous a donné de l'argent, vous avez hérité d'argent, vous avez fait une trouvaille qui valait de l'argent et si oui, laquelle la plus importante, Emma ?
Alors moi un jour avec ma mamie Pirette, on est allé, elle faisait des commissions et il y a une ambiance émission striptease. Elle a acheté un bingo à gratter.
Oui.
Et puis dessus, on a gagné 200 euros.
Ouh,
voilà, c'est
même
la plus grosse somme d'héritage de ma vie. Et c'est elle qui les a empochés puisque j'avais 8 ans.
Ah mince.
Voilà, j'en ai pas vu la couleur, mais
elle t'a pas acheté quelque chose avec.
Bounty,
oui. Un bout.
Énormément de bonbons et voilà. Bon, après, la suite c'est compliqué. Des DCA, enfin bon bref.
Camille, toi
Moi, c'est un peu pareil, mais version casino. Voilà, j'avais misé peut-être, je sais plus, 5 euros, et puis j'avais gagné 400 euros. Je suis là, quoi ? Voilà, ça me paraissait
5 euros, 400 euros, c'est énorme.
Les machines à sous, là, ça s'arrêtait jamais, jamais. Mais il est possible que je les ai rejouées derrière et que finalement, je suis reparti avec 5 euros, hein, je sais plus.
Daniel ?
Moi, je n'ai rien gagné, moi, que ce soit l'argent, la vie, l'amour.
Oh,
j'ai de miser sur le mauvais cheval. Mais un jour viendra.
Est-ce que tu joues déjà?
Non.
Bah voilà.
Ah bah voilà.
Peut-être commencer par ça.
Je me disais.
Jamais un loto, jamais un.
Non, alors ça m'est arrivé quand c'est, vous savez, les grosses cagnottes, comme tout le monde.
Voilà. La semaine dernière.
Il y a une grosse cagnotte
Vendredi 13. Oui, Old Laugh.
Moi, c'est cette année, figurez-vous, que je suis passé au bureau de la DRH, j'ai demandé une augmentation que j'ai eue de 10 euros brut. Voilà. Et donc là, depuis, je déconne, je pars en vacances, ça tire la gueule. Voilà.
On gagne pas beaucoup, en fait, autour de cette table. Tanguy
Non, une fois, dans les années 90, au casino de Roscoff, un casino majoritairement emprunté par les Anglais, parce qu'ils sont vraiment à la sortie du ferry. Et donc, ça n'a rien à voir, en fait, avec le fait que j'ai gagné, mais j'ai gagné l'équivalent de 2000 francs, à peu près, quand même. En euros, c'est beaucoup moins spectaculaire, forcément,
oui,
aujourd'hui.
150.
Mais à l'époque, c'était quand même une petite somme.
Et qu'est-ce que t'en avais fait?
Alors, Roscoff, la culture là-bas, c'est l'oignon rosé. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup d'oignons rosés. Et j'ai attendu sous la pluie que la vie passe. Et, voilà, comme d'habitude.
Tu vois, tu sais t'amuser.
Voilà, mais c'est ça, c'est breton.
L'oignon
rosé.
Moi, je gagne de temps en temps. Mais oui, parfois. Alors, ça m'est arrivé de gagner 500 francs au banco à l'époque, quand j'étais enfant. Et aujourd'hui, je joue régulièrement. J'avoue que c'est ma petite passion.
Moi
un
aussi,
peu de tout,
contre,
en fait.
Ouais.
Au tiercé.
C'est vieux, ça.
Bah ouais, mais bon, moi j'ai un petit côté au Omar Sharif. J'avais un grand-père qui jouait aux chevaux, donc en fait, du coup, j'ai une sorte d'appétence pour les chevaux. Ouais. Voilà.
On s'ennuie tellement.
Pauline,
à Poitiers, hein.
Ouais. En vacances, dès que je peux, je vais jouer. Pauline.
Moi, je crois que j'avais gagné aussi une fois au casino, mais en fait, j'étais arrivée au casino, c'était tiens, on va faire la roulette, je crois.
Ouais.
Et en fait, on est resté vraiment 2 minutes parce qu'on a dû mettre 10 euros, puis on en a gagné 60, et on a fait. Oh on s'arrête là. Et du coup, on est reparti. On s'est dit, mais vraiment, en fait, ça va très très vite là-bas. Si...
Alors que la roulette, normalement, on continue un peu. On est vraiment dans les salles
ouais,
de jeu.
Ouais, mais je sais pas. Je me suis dit, on part gagnant. Ouais. Alors, ouais. Il faut repartir maintenant tout de suite.
En même temps, vu les yeux que vous faites quand vous racontez l'anecdote, fallait mieux arrêter. Là, fallait arrêter.
Et vous, André, est-ce que vous êtes un joueur?
Je suis entraîné par des amis comme ça pour aller dans un casino. Et puis, en effet, aux innocents les mains pleines, j'ai gagné énormément. Donc, on n'avait pas des ambitions extrêmes. On a dit, bon, celui qui gagne, il paye des chambres de l'Ibis. C'était à Deauville. Aux autres, donc c'est ce que j'ai fait. Et puis après, bah, évidemment, ayant gagné, je pensais que j'allais regagner à chaque fois et j'ai tout perdu, beaucoup plus. Alors maintenant, j'ai trouvé une technique.
Ah, dites-nous. Oui.
Je joue toutes les semaines, mais de façon fictive. C'est-à-dire, j'ai mes numéros, je regarde le mercredi ce que ça sort, et là, je vois que mes numéros ne sortent jamais. Donc, du coup, j'ai l'impression de faire des économies monstrueuses et de gagner à chaque semaine, quoi.
Le jour ils vont sortir.
Prenez un abonnement, je vous en supplie, comme ça, vous y pensez plus.
Comment c'est un abonnement?
Il y a des abonnements pour jouer.
Ah oui,
enfin, mais qu'est-ce que vous faites?
Qu'est-ce que tu fais?
Bien sûr, on peut garder une fidélité. Alors, normalement, on joue ses numéros toujours.
Lady Culture, tu la vois maintenant. En fait, elle va au PMU, elle fait ses prix.
Dans Chers Parents, en tout cas, on a un couple de parents que vous incarnez merveilleusement avec Miu Miu. C'est un plaisir de vous voir tous les deux réunis ensemble sur grand écran, qui appellent leurs enfants, qui les convoquent presque en toute urgence parce qu'ils ont quelque chose de décisif à leur annoncer.
D'important et de grave, oui.
Et de grave. PS, on vous aime. Donc le « on vous aime » leur met quand même un peu la puce à l'oreille. Il s'est passé quelque chose de dramatique. Cette comédie s'ouvre avec une sorte de, comme ça, de suspense assez fort. Et on comprend assez vite, André et Pauline, que la nouvelle est plutôt heureuse pour les parents. Ils ont gagné de l'argent à la loterie, disent-ils dans un premier temps.
Oui, au début, ils disent qu'on va ouvrir un orphelinat au Cambodge. Donc ça intrigue un peu les enfants, bien sûr. Et au bout d'un certain temps, ils disent, mais comment, avec quel argent, etc. Et ça commence à ce moment-là, évidemment. Et Miu Miu, on la comprend à peine, elle parle de loterie. Enfin bon, bref.
Ouais.
Et donc voilà, ça commence comme ça. Et après, c'est plein de surprises et de rebondissements, parce que chacun se révèle, comme vous l'avez dit tout à l'heure.
Et c'est le début des ennuis, parce que qu'est-ce qu'on fait quand on est les parents de trois enfants qui sont grands quand même, qui sont adultes, qui sont dans la vie,
plus ou moins autonomes,
voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On va en parler pendant l'émission. Sachez que autour de cette table, plutôt exilée, au bout du studio, comme c'est ça, vrai. On aime bien le regarder de loin. Ouais. C'est Oldelaf.
C'est là que je suis le plus beau.
Oldelaf,
jamais assez loin.
Il est particulièrement fan de vous deux.
C'est tout à fait vrai. C'est parti.
Je suis fan d'André Dussolier. Tellement fan qu'aujourd'hui je vais peut-être me rattraper. Un jour au parc de Sceaux, j'ai pas osé vous aborder. Depuis je regrette, je noie mon chagrin, je fais que manger. Je suis fan de Pauline Clément. Alors oui fan, mais vous je vous déteste quand même vraiment. Je suis tellement jaloux car vous réussissez tout. De brut à la comédie française, c'est quand même foufou. Et vous êtes là ensemble pour le film Chers Parents. L'histoire d'un Tibétain, un Sherpa nommé Rang. Ça parle d'altitude, de sommet qui s'envole. Pourtant Pauline, vous jouez avec André Dussol. En vrai dans le film c'est les parents qui ont gagné le jackpot. Et les trois enfants qui ont l'impression de se faire carotte. On s'est tous posé déjà la question dans la vie. Qu'est-ce qu'on ferait si on avait autant de pognon que Nagui? Allez
oui,
j'ai plus le retour. Si j'avais un magot, je palperais le jour, je palperais la nuit. J'aurais un gros hammer, je achèterais une ferme, les casinos barrières. Il y aura rien pour mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Ce serait le bonheur. Je faillis me blesser. Maintenant, on twist, c'est parti. À la radio. Encore une fois. Si j'avais des millions, je m'habillerais comme Kadour. Je rachèterais Nagui. Je rachèterais France Inter. Je retournerais chez ma mère avec ma Porsche Cayenne. Je frimerai devant mon père, ma mère, qu'est-ce qu'un ce serait le bonheur. Je vous entends twister chez vous. Allez. Je n'entends rien. Encore une fois. En vrai, le film parle d'amour, de de ce qu'on partage. C'est précieux de parler à ses parents d'héritage. Vous êtes nos invités, on vous fera pas de mal. Bienvenue à vous avec la bande originale.
Et la vidéo prend tout son sens à la radio après une performance comme celle-ci, Oldelaf.
Oldelaf sur scène dans les Landes. Il poursuit la tournée Groland. Il sera à Hondres. Ce sera samedi. Bravo, Oldelaf.
Et Chef Parent, ce mercredi, au cinéma, avec cette musique signée Romain Trouillet, qui accompagne l'ambiance comme ça, de cette maison, ce mât familial où les enfants sont ravis de rejoindre les parents quand les parents annoncent qu'on a gagné à la loterie. Et le « on » est important, ah bah du
oui.
Solier.
Oui, c'est là que l'histoire commence, parce qu'évidemment, on n'a pas envie forcément de leur donner, on a envie de vivre notre vie avec tout ce pactole, et c'est là qu'ils sont sidérés, bien sûr, et qu'il va y avoir, on va aller de coup de théâtre en coup de théâtre, parce qu'ils ont des habits tout à fait différents entre enfants.
Et oui, Pauline, vous incarnez l'enfant du milieu. C'est ça, vous n'êtes pas l'aînée, vous n'êtes pas la petite dernière, vous êtes la seule fille, vous êtes entourée d'Arnaud Ducré et Thomas Oliveres.
Et puis nous, moi au début je suis très contente, au début on est très inquiet d'abord quand ils nous disent venez, on a quelque chose à vous dire, PS on vous aime, on est très inquiet, on se dit ils vont mourir, ça y est.
Il y a un quiproquo qui s'installe pour le grand voyage, le dernier voyage. Vous imaginez qu'ils vont, vont même mettre fin à leur jour tous les deux.
Oui, on se dit, on avait entendu parler de la Suisse, on ne savait pas pour le Cambodge, il doit se passer quelque chose là-bas, tout ça. Ils veulent partir à deux. Bon, on est très, très affectés. Puis quand ils nous disent que finalement ils partent en voyage, qu'on comprend que c'est des vacances, là on leur en veut vachement en disant, vous nous avez fait venir l'un de Bretagne ou de Paris. Qu'est-ce que vous foutez? Et après, pour l'argent, au début, on est très contents pour moi. Au début, je suis très contente pour eux. Je me dis, c'est super, ils ont un beau projet, ils ont de l'ambition, ils partent au Cambodge, faire un projet humanitaire. Je suis très heureuse pour eux. Et puis, mon frère commence à poser pas mal de questions sur le côté plan financement. Et ça finit par me rentrer dans la tête. Et ensuite, je comprends qu'il va rien me donner.
Alors le garçon, le fils aîné, c'est lui qui met un peu le verre dans le fruit. Il commence à poser des questions très très pratiques. Alors c'est un enfant, on a l'impression que il appartient pas vraiment à la même portée. Vous voyez ce que je veux dire, André Dussolier?
Il est dans la vie active et puis l'argent, ça lui plaît bien, quoi. C'est Arnaud Ducré qui joue ce rôle de l'aîné et qui en plus est un peu le leader dans la famille, parmi les enfants. Et donc c'est lui qui ose formuler la chose évidente, quoi. Il dit, mais vous allez nous en donner un petit peu quand même. Et donc, là, on dit non. Et là, c'est le drame commence. Enfin, le drame.
Impensable
comique,
que les parents ne partagent pas.
Impossible. Quand même, on a entendu il n'y a pas longtemps Sting.
Oui, c'est vrai, sur les antennes de France Inter, à matinale.
Voilà, c'est ça, qui a dit qu'il ne donnerait pas d'argent. Alors, ça, j'aimerais bien voir quand même. J'aimerais bien surveiller l'histoire, si c'est possible quand même.
Après le
départ de Sting, il va y avoir quand même des droits d'auteur qui vont tomber.
L'argument avancé par Sting, c'était de dire j'ai envie que mes enfants fassent leur propre chemin.
Bien sûr.
Et j'ai pas envie d'être un handicap dans leur vie.
Oui, c'est ce qu'on dit aussi avec Miu Miu. Les parents, ils ont des bonnes intentions, vraiment. C'est parce qu'on vous aime. Donc c'est pour que vous forciez à activer, faire des choses par vous-même, quoi.
C'est ça.
Obtenir les gains, mais tout seul, quoi. Sans forcément notre aide. Et c'est inacceptable, évidemment. Et tout le monde va se révéler, y compris le père.
Y compris le père, parce que lui, il est un peu ambigu sur deux, trois choses. Mais c'est vrai que les parents leur ont transmis l'essentiel, les valeurs. Ils le disent, vous êtes né sous une bonne étoile.
Oui, c'est ça, mais quand ça devient chaotique, chacun révèle un petit peu ce qu'il a envie profondément de faire, et ça remonte à la jeunesse, m'acheter une voiture Spitfire, etc., décapotable. Bon, voilà, c'est déjà au moment où, dans le film, tout est parti en éclats.
Dit, vous avez été malheureux, non? Est-ce que vous avez de quoi vivre? Oui, alors.
C'est vrai, qu'est-ce que vous demandez de plus?
Ouais.
C'est vrai, finalement. Et votre personnage à vous, Pauline, alors le portrait qui, en effet, n'est pas évidemment très très flatteur, elle vit seule avec son chien Jean-Pierre.
Oui. Elle est en études de médecine, mais elle a changé plusieurs fois de spécialité. Ça fait des années. Des années qu'elle ne se lance pas, quoi, qu'elle refait des études financées par ses parents.
Parce qu'ils l'aident.
Qu'il l'aide, je pense qu'elle les aime beaucoup, ils sont très proches, mais elle a un peu du mal à s'émanciper, à se lancer. Et puis, tout d'un coup, quand elle réalise qu'elle pourrait même ne pas travailler et juste être riche.
Manger de la feta sur le bord d'une piscine, c'est un rêve.
Ça l'intéresse quand même. Elle avait des bons principes, c'est médecine, mais... Mais rester en... Ouais, manger des calamars, c'est pas mal.
Et vous, votre personnage, André, qu'est-ce que vous... On sait qu'il est à la retraite.
Il est à la retraite, ancien prof, ouais. Et donc avec des bons principes, etc. Et qu'il partage avec ma femme, que joue Miu-Miu. Et donc, non, on a envie, quand ce pactole arrive comme ça, de façon brutale, et on a peur que ça détruise un petit peu la vie de chacun, ou en tout cas que ça l'handicape, ou que ça parasite. Ça paraît bizarre de dire ça, parce qu'évidemment, quand l'argent arrive, il y a un très joli proverbe, évidemment, français qu'on connaît, l'argent ne fait pas le bonheur, auquel les Italiens ont rajouté, alors vous imaginez quand on n'en a pas.
Oui.
Donc, voilà. Donc, non, voilà, on ne peut pas dire que c'est pas une bonne, c'est une bonne surprise pour tout le monde, et tout le monde a envie d'en profiter. Mais évidemment, après, c'est la gestion qui commence, c'est ça. Qui est difficile.
C'est ça. Et puis, il y a argent et argent. Que les parents aient gagné un petit pactole,
voilà.
Et qu'ils décident de faire le bien avec cet argent,
voilà.
Bon, passe encore. Mais vraisemblablement, les parents ne disent pas absolument tout.
Ils ne disent pas tout, voilà. C'est la première étape.
C'est un premier mensonge qui commence. Ouais.
Ils nous demandent de combien on a besoin pour être heureux.
Et alors ça, c'est intéressant dans le film, parce qu'il vous confronte à une réalité difficile, c'est se dire, qu'est-ce que je dois marquer sur un bout de papier pour demander à mes parents,
ouais.
Ouais.
Estimer la somme importante, et d'ailleurs c'est très révélateur selon les enfants. Le petit dernier demande 5 300 €, dont 300 pour réparer la machine à laver. On voit déjà que... Et l'aîné demande 100 000 €. On est vraiment sur deux latitudes très
de la situation professionnelle et, oui, et...
Du rapport à l'argent.
Oui, surtout que l'aîné a plus d'argent que le frère.
Paradoxalement.
Oui.
Paradoxalement. On va aller d'ennui en ennui avec des petits moments où on pète les plombs, tout simplement, sans aller trop loin. C'est tiré d'une pièce de théâtre,
ouais.
Que vous aviez vue déjà.
Je ne sais pas si Pauline l'a vu.
Je l'ai vu après, je l'ai vu,
ouais.
Récemment.
D'accord.
Ouais. Moi, je l'ai vu aussi, très très bien joué. Ça durait depuis 5 ans. Ils ont joué 1000 fois cette,
ouais.
Pièce, qui a eu beaucoup de succès. Et donc,
Théâtre de Paris, oui.
Voilà, la science s'est faite, mais c'est faite aussi au cinéma. Mais elle s'est faite avec pas mal de... En général, quand on adapte une pièce de théâtre, on se contente de tourner ce qui a été écrit. Mais là, ils sont sortis de l'endroit clos du théâtre. Ils sont allés encore plus loin, dans une joyeuse immoralité. Ça va de plus en plus loin. Et donc, voilà, ils n'ont pas été paresseux quoi, dans l'écriture cinématographique.
Emmanuel Patron et Armel Patron, et alors avec un petit clin d'œil à la pièce de théâtre, puisque les voisins sont incarnés par Frédéric Tirmont et Bernard Allan, qui incarnaient les parents.
Absolument.
Dans la pièce de théâtre.
Ils ont créé le rôle des parents.
Voilà, ouais, donc il y a une sorte de clin d'œil comme ça.
Qui ont fait briller la pièce au théâtre pendant de longues années. Oui,
ouais, qui est assez joli de vous... Voilà, chacun s'autorise et chacun fait partie de l'aventure.
Emmanuel. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir,
oui.
Pour gravir,
oh oui,
le sommet. En oubliant souvent.
On parlera du travail, de l'héritage et de toutes ces questions qui se posent en ce moment. Vous l'avez souligné avec Sting, avec notre spécialiste tout à l'heure, Pauline de la Motte-Rouge, médiatrice patrimoniale. En gros, quand il y a de l'argent, ça devient compliqué dans une famille. Les plus vils, je ne sais pas, sentiments commencent à remonter à la surface, comme ça, un petit peu douloureusement. Chers parents, c'est en salle. Ce mercredi, Emmanuel Patron, qui réalise pour la première fois et qui est incarné au théâtre, Pauline,
oui,
vous étiez en train de le dire.
Oui, le grand frère, le rôle du grand frère, il a joué, je crois, 400 fois.
Voilà, donc une affaire de famille qui se poursuit au cinéma pour une première. Et puis, vous avez été au Festival de l'Alpe d'Huez.
Oui.
Comment s'est passée la réception du film ?
Très bien, le public riait beaucoup. C'était la première fois que le film était, enfin pour moi, que le film était projeté, oui. En salle avec le public. Quand on joue au cinéma, ben c'est entre nous, on espère, mais on a besoin de savourer. C'est pas comme au théâtre, quoi. Donc on a besoin là de cette projection et ça s'est très bien passé. Après, il y a une forte concurrence à l'Alpe d'Huez.
Oui.
Pauline peut en témoigner puisque elle était la grande triomphatrice.
Oui, c'est vrai, Pauline.
Mais ce film faisait l'ouverture, ça c'était joyeux. Il y avait la cérémonie d'ouverture, puis ça commençait tout de suite par Chers parents. Et oui, nous, on ne l'avait jamais vu avec du public. Et donc de voir que ça rit, c'est
génial. Et les rires arrivent au moment où vous imaginiez qu'ils allaient arriver.
Pas du tout.
Non,
pas
du tout. Exactement.
Et on s'est dit, mais mince.
Mais ça, c'est bon signe quand c'est pas du
c'est
tout. Parce que, bah oui, parce que c'est quand les rires viennent un peu partout, ça veut dire. Enfin, c'est basé quand même sur des réactions vraies de chacun. Donc tout le monde peut s'identifier et rire à l'endroit qui le concerne. Quoi.
Mes chers parents, ce mercredi au cinéma et tout de suite dans la bande originale, c'est Daniel Morin. Et ouais, Daniel Morin, parce que toi, le film. Bah oui, le film, Daniel, il n'aurait pas fait comme ça, Daniel.
Mais bien sûr que non. Oh, merde. Bien sûr que non, Seigneur Acadour, j'aurais pas fait un film comme ça. Déjà, primo, pour commencer, j'aurais pas fait de film.
Non.
Puisque je suis pas réalisateur ni scénariste et que tout comme vous, Leïla, le milieu du cinoche fait de trahison abjecte, de perversion consanguine. me dégoûte. Oui. Moi, ça fait 12 ans qu'on travaille ensemble. Et il a... Alors, ok, au niveau intimité, on n'a jamais dépassé le stade du concours d'apnée dans un bassin rempli de vodka, mais quand même. Vous êtes journaliste, vous devriez le savoir. Oui. Moi, mon boulot, c'est de divertir avec finesse et élégance des auditeurs érudits et exigeants, de donner un sourire aux enfants déçus par un monde sans promesses et peuplé de troubadours malfaisants comme Tanguy Pastureau, l'amuseur complotiste armoricain d'extrême droite au physique de fonctionnaire dépressif. Dozio, si j'avais dû, j'aurais pas fait un film avec André Dussolier et Pauline Clément. Et d'ailleurs, vous non plus, Leïla, à en croire ce que vous m'avez dit hors antenne.
Je cite,
que ce film eût été un bijou si le casting avait été un peu plus exigeant. Troisième mot, je n'aurais pas fait un film sur la famille, car s'il y a bien quelque chose qui me répugne, au moins autant que les boissons sans alcool et le vivre ensemble, c'est la famille. Moi, j'ai l'esprit de famille d'un Dupont de Ligonnès. Quatronimo, j'aurais pas fait un film sur l'argent, car je vous rappelle à nouveau que j'ai fait quasiment toute ma carrière à France Inter, et que l'argent m'est donc autant étranger que le sens du rythme l'est pour Roldelaf. Voilà. Enfin, je n'aurais pas fait un film dans lequel des parents donneraient une part d'héritage à leur enfant après avoir gagné à la loterie, car je peux vous dire que le jour où je braque l'euro million, à moi le luxe, la débauche, l'outrance, bref, une vie comme celle de Monsieur Dussolier. Moi, gagnant de l'euro million, je me permets tout, j'achète le Groenland juste pour emmerder Trump, je fais euthanasier toute l'équipe de la BO,
non.
Je file à Istanbul pour m'acheter des cheveux roux et frisés, j'épouse un frigidaire et je crève au bout d'une semaine. Attendez, on m'appelle dans l'oreillette pour me dire que pour l'instant je reste un salarié de France Inter, je dois respect à nos invités. Ok. Mademoiselle Clément, mes hommages. Monsieur Dussolier, mes respects. On me précise aussi que par respect pour nos auditeurs, je me dois de faire une conclusion. Bobo, gaucho, écolo, va fanculo. Ok, alors d'accord. Alors, permettez-moi de souligner le plaisir que j'ai eu de voir ce film qui rappelle à quel point le capitalisme, le pouvoir de l'argent, le consumérisme à tout craint sont les gangrènes de notre siècle en perte de sens et que chacun, à son niveau, peut agir. Soyons ce papillon dont le battement d'aile peut faire bouger les mentalités. Oh la vache, je me dégoûte. Enfin, bref, vivement que ce soit mon tour de gagner, en tout cas.
Bravo, Daniel, faut jouer.
Oui, tu m'en conseilles.
Absolument, il faut jouer. Et autant ces enfants s'inquiètent pour l'existence de leurs parents, et finalement, ils commencent à se demander si l'espérance de vie de leurs parents n'est pas trop longue. Et oui, et s'ils ne vont pas surtout tout dépenser d'un coup, André Dussolier. C'est ça l'inquiétude des enfants. C'est terrible d'avoir élevé des enfants.
Ce facteur, c'est tellement important, bien sûr, la vie est longue. Et donc, bien sûr,
on hérite tard.
Dans un premier temps, oui, ils héritent de quelque chose, mais après, ils ont peur qu'on dépense tout. Oui, c'est vrai qu'il y a tellement d'éléments. Quand même, vous voyez, dès qu'on a de l'argent,
mais oui, c'est le début des ennuis. C'est le début des ennuis.
Beaucoup d'argent.
Il y a cette réflexion qui est quand même horrible de la part du fils aîné qui dit oui, parce que des orphelinats pour ouvrir partout dans plein de pays, comme ça, ça ne va pas les arrêter. Il a peur de ça. Il a peur de la générosité de ses parents.
Il a peur, et puis surtout, il considère qu'en fait, les orphelins ont de la chance d'avoir des gens comme ses parents pour s'occuper d'eux, mais il aimerait bien avoir lui aussi des parents qui s'occupent encore de lui. Et c'est ça, en fait, on se rend compte que les enfants restent des petits enfants en réalité en rapport à l'argent. Jean-Pauline.
Mais ils n'ont pas très bien compris qu'ils étaient devenus adultes, les trois. Ils sont très papa-maman, ils n'ont pas trop... Alors le grand frère, un peu plus, il est un peu plus installé, mais les deux autres, elle n'a pas compris encore qu'elle était devenue adulte. Je pense qu'elle est très contente d'être toujours étudiante, de rester dans ce cocon-là, de ne pas passer le cap.
Et ça mène à un règlement de compte, en fait, entre les enfants.
Entre eux, oui, ils se réveillent.
Ils se disent des choses qui ne se sont jamais dites.
Oui, tout, il n'y a plus de filtre. Tout est dit. Tout est claqué à la gueule les uns des autres. Sous l'œil des parents qui les regardent depuis la fenêtre, qui se disent qu'ils sont mignons, puis qui après entendent qu'ils ne sont pas si mignons que ça.
Et ce couple que vous incarnez avec Miu Miu, qui est à la limite du sadisme quand même, à certains moments, André Dussolier.
C'est-à-dire non, c'est pour leur bien comme Miu Miu, hein, bien sûr. Mais après, ça vire un peu de façon aigre, un peu bien sûr. Et c'est pas... Quand ils sont à la fenêtre et qu'ils les regardent se disputer et qu'ils les entendent, comme ça, ils disent on a peut-être un peu manqué d'autorité. Quoi. Évidemment, l'éducation est toujours imparfaite, mais là encore plus, ça se mesure quand l'argent arrive comme ça à flot et que ça sert de révélateur à chacun, pour chacun, pour la personnalité. Oui, c'est pas très bon l'argent. Hein,
non.
Il faut mieux rester à France Inter, Daniel.
C'est ce que je vais faire.
Le conseil d'André Dussolier. Sachant que c'est surtout Miu Miu, le personnage de Miu Miu, qui tient la barque.
Elle tient la barque, elle tient le cap, absolument.
Parce que vous, il ne vous faudrait pas grand-chose pour vaciller.
Ah oui. Et confirmé aussi par l'ami aussi qui viendra plus tard, mais c'est vrai qu'il y a des rêves d'enfants qu'on a envie de réaliser quand c'est possible. Et donc ça remonte à la surface brutalement. Voilà. Eux, ils sont enfants, les trois. Voilà. Mais enfin, on reste toujours un peu enfant et il y a toujours un rêve qu'on a envie de réaliser. Peut-être bien quand il y a les moyens qui arrivent.
Ce serait quoi votre rêve, vous, André Dussolier?
J'achèterais le studio 104 de la maison de la radio. Mais je ferais, oui, il y aurait
de
quoi.
Faire des grandes fêtes.
Mais Loukini me dirait, mais non, c'est vrai, c'est pas parce que je voudrais inviter les chanteurs, les gens à faire des lectures, les publics. Mais il dit, mais non, faut faire payer les gens pour qu'ils apprécient un peu ce qu'on fait. Donc je blague, hein, je me moque de lui gentiment. Mais non, ce serait, on rêve à des choses comme ça, à des ambitions un peu comme ils peuvent avoir, c'est-à-dire vraiment qui concernent. On a envie de d'aider les proches, ceux qu'on connaît, et puis après avoir de grandes envolées, peut-être des grandes ambitions. Enfin, ça c'est du fantasme.
C'est vrai. Et vous, Pauline, ce serait quoi?
C'est compliqué, hein. Comme on le dit dans le film, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'on fait?
Qu'est-ce qu'on fait avec autant d'argent?
On donne à qui? Comment? Après, j'imagine qu'effectivement, il y a quelques envies un peu bête comme la voiture.
Un peu folle, ouais.
Oui, un peu égoïste. Mais c'est,
un peu égoïste,
c'est
un beau sac à main.
Moi
chaussures à talons qui claquent. Et voilà, mais
c'est très raisonnable,
pareille.
Ça. C'est très raisonnable,
ouais,
pour l'instant.
Vrai, ça dépend. Ça dépend des chaussures.
Oui, c'est vrai, peut-être. Ouais,
mais
peut-être.
C'est vrai qu'une somme si énorme, c'est vertigineux, on ne peut pas s'imaginer.
Oui. Alors le film commence dans une ambiance douce et tendre, et on va voir vite le contraste, ne serait-ce qu'avec la musique du film qui donne le ton.
Ah oui.
Quand il découvre qu'en fait, et c'est dit dans la bande-annonce, donc je peux y aller, que le gain, c'est 150 millions d'euros.
Oui, c'est une comédie, mais ça pourrait virer au drame. Hein. Et on a vu que dans certains cas, comme ça, de l'actualité, des faits divers, je me souviens de deux enfants américains dont les parents étaient milliardaires, je sais pas, et qui se sont dit, bon, on touchera jamais cet argent, et ils les ont tués. Donc ça va très loin, c'est un peu cinglé, ça rend fou, quoi.
Ça évidemment. Rend complètement dingue, et ça peut mener à des comportements fous, au point de s'en prendre éventuellement aux parents, vous l'avez dit. Et pour autant, on les aperçoit, ces enfants, comme ce qu'ils ont été dans leur chambre d'enfant, le soir où ils doivent déterminer la somme que leurs parents devraient leur donner, on les retrouve tout d'un coup dans quelque chose de plus poétique, de plus posé.
Donc les souvenirs remontent. Ouais.
Voilà, la tendresse entre eux, réciproque, et tout d'un coup, l'argent à nouveau rend les individus complètement dingues, au point de devenir, de s'excuser auprès des parents de leur folie même.
Oui, on se dit, peut-être on est allé trop loin. On va aller s'excuser, leur faire une surprise, essayer de se réconcilier avec eux. Et puis, malgré tout, ça répète de nouveau.
Et puis, ses parents, disons-le, ne sont pas complètement transparents, ne sont pas complètement, comment dire, vierges de tout mauvais sentiment. On ne va pas dévoiler, parce qu'il y a encore plein de rebondissements. Là, vous avez l'impression qu'on vous raconte beaucoup le film, mais pas du tout. C'est vraiment au début du film, ce qu'on vient de dire. Il y a ensuite plein de rebondissements, et on se rend compte que ses parents ne sont pas si vertueux, n'est-ce pas, André Dussolier, qui cachent bien leur jeu, quand même, que l'argent rend fou tout le monde.
Ces vils instincts, c'est terrible, qu'on soit parent ou avec... C'est là que le surmoi ou la morale, on sent bien quand même que c'est quelque chose de construit, et que l'instinct est supérieur quelquefois à tout, quoi, quand il s'agit de régler des problèmes, mais ou d'avouer ses faiblesses.
J'ai l'impression qu'il en faudrait assez peu pour vous basculiez. J'ai l'impression qu'on est à ça.
On disait que le film était tiré d'une pièce de théâtre, et d'ailleurs c'est ce dont on a l'impression quand on voit le film, que vous jouez tous ensemble, que c'est vraiment, vous avez quasiment tous vos scènes ensemble.
Ouais.
Donc vraiment, vous êtes tous les cinq réunis sans cesse.
Ouais.
Comment vous avez traversé ces semaines de tournage?
On avait évidemment appris comme au théâtre, c'est-à-dire on avait anticipé, on était prêt, quoi, à jouer des scènes qui durent quelquefois 5, 6, 7 minutes, ce qui est rare au cinéma. Donc on était prêt, quoi, avec Pauline, avec...
Oui, il ne faut pas se planter pour ne pas faire tomber tout le monde, quoi, là.
Ah oui,
ouais.
Et c'est dit bien. C'est un peu comme les orchestres qui viennent au studio 104.
Future acquisition d'André Dussolier.
Ils savent jouer, quoi, et ils ont 3 jours pour répéter. Bon, alors on a un peu plus, mais peut-être pas, non, c'était à peu près le deal, quoi, pour nous tous, quand on allait tourner, il fallait savoir les choses, oui, il fallait être prêt.
C'est une vraie troupe.
En plus, c'était difficile, parce que on était en face d'un metteur en scène qui avait joué la pièce, mais qui avait l'intelligence de pas vouloir qu'on mette les pas dans les siens, etc. Et il nous a laissé une liberté, et c'était facile et agréable avec cette partition-là.
Vous vous connaissiez déjà?
Non, je ne connaissais pas, j'avais vu la pièce. Ils étaient vraiment heureux de voir que le duo Emmanuel et Armel, les auteurs, avaient donné... C'était une bonne idée, évidemment. C'était très révélateur, ça allait plaire au plus grand nombre.
Et vous, Pauline, ce tournage en troupe, la comédie française, Pauline Clément de la comédie française, je ne l'ai pas précisé. Donc ça, vous avez l'habitude des maisons comme ça qui fonctionnent ensemble. C'est un tournage qui correspondait un peu à ça.
Mais moi, c'est ce qui me plaisait aussi au scénario, que ce soit la famille tout le temps, qu'on soit un petit groupe de personnes tout le temps ensemble, à jouer ensemble et traverser toutes ces émotions avec les mêmes personnages. Et c'est vrai qu'au début, Emmanuel nous disait « Ah là là, mais moi, normalement, quand on joue ça, nous, on a un mois et demi de répète, deux mois, et là, bah, en fait, c'est un film, donc c'est pas pareil, on fait des lectures, puis on y va. » Mais on s'est tout de suite soutenus, parce que c'est vrai que dans les scènes qui durent 7-8 minutes, si quelqu'un se trompe à la fin, bah, on reprend tout au début. Donc assez vite, on s'est dit « On est tous ensemble, on se rattrape, on rebondit. » Et je crois que tout de suite, on s'est soulevé, on s'est entraidé quoi pour ces grandes scènes qui étaient impressionnantes où il fallait qu'on passe par plein d'émotions. On a fait la première lecture avec André et Miu-Miu, ils sont tellement sincères, tellement c'est tellement vrai que nous en face on est un peu séchés puis on va les intentions étaient tout de suite là et ce couple de parents ça nous a vachement porté.
Un couple un petit peu comme ça pervers quand même.
C'est
pas des déglingos non plus.
Non, mais quand même.
On a du mal à tenir le cap. Miu-Miu est la plus forte, en plus, la plus solide. Mais chacun, dérape, quoi, évidemment.
Avec un casting d'enfants, le fils aîné, l'entrepreneur dans le photovoltaïque, qui semble avoir tout réussi, mais vraisemblablement, on va avoir des surprises là aussi. La cadette, qui travaille dans un hôpital, qui est seule, qui sent bien que sa vie n'est pas complètement accomplie.
Puis elle n'est déjà médecin, mais elle se cherche. Elle fait des spécialités après spécialités.
Elle a peur d'y aller.
Ouais, elle a peur d'y aller. Il n'y a pas trop de rencontres amoureuses.
Il y a Jean-Pierre. Oui, parce que poser la question de... Une fois qu'on vous donne de l'argent, c'est marrant, chacun des enfants précise bien qu'il n'a pas très envie qu'on le raconte à son partenaire. D'un coup, l'argent, on voit que ça gêne à tous les endroits, en fait. Que ça pourrait venir influencer les relations, que c'est peut-être pas exactement le bon moment. Et le petit dernier, Thomas Oliveres, un auteur qui n'a pas rencontré son public, on va dire ça comme ça, qui fait l'objet de mauvaises critiques, qui est un peu sur le bord du bord de la route, quoi, vraiment, qui commence un peu à désespérer que rien de bien ne lui arrive. Avec, on a parlé d'Aznavour pour illustrer, et puis aussi... Un peu de musique classique, ça va vous faire plaisir, avec des moments plus calmes que d'autres. Parce que ça peut vite dégénérer dans Chers parents, cette comédie, ce premier long métrage d'Emmanuel Patron, au cinéma ce mercredi avec Miu Miu, Arnaud Ducré, Pauline Clément, André Dussolier et Thomas Oliveres. Et j'ajoute le couple de voisins partis en Bretagne qui revient vite et qui n'y est pas pour rien dans cette histoire de tickets de loto validé, Frédéric Tirmont et Bernard Allan. Et tout de suite dans la bande originale, eh bien c'est Camille Lavabre.
Bravo.
Bienvenue dans une nouvelle chronique avec Coachella, ta love coach. Avec Coachella, c'est sûr, il te choisit toi. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier les filles, car vous êtes maintenant plus de 300 000 à vous être abonnées à ma chaîne musicale Doré Pick Me, sur laquelle je vous apprends à faire des playlists Spotify composées uniquement de gros rap de bonhomme, ta à l'ancienne, t'as capté. J'en profite aussi pour vous dire que je viens de lancer ma chaîne secondaire de gaming qui s'intitule Deuxième Manette, sur laquelle je t'apprends à perdre à FIFA même quand ton mec ne sait pas centrer. Et je rappelle aussi que vous pouvez toujours participer à mon concours pour remporter mon livre de cuisine, 50 recettes trop trop bonnes qu'il ne saura pas reproduire à la maison, car c'est uniquement à toi de les réaliser. Voilà, maintenant passons aux choses sérieuses. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'un jour important arrive très prochainement. Et non, il ne s'agit pas de l'équinoxe ni des 87 ans de Daniel Morin, mais bien de la journée du 8 mars. Journée internationale des droits des femmes. Et oui les filles, car nous aussi avons la chance d'avoir notre propre journée à nous, rien qu'à nous, tout comme le thon ou la tuberculose. Et si j'ai choisi de t'en parler aussi en avance, c'est que pour que tu puisses la préparer correctement. Et oui, car si on a instauré une journée internationale des droits des femmes, c'est avant tout pour remercier les hommes de nous en avoir donné. Alors, je sais que certaines disent que c'est au contraire une journée de sensibilisation quant au combat qu'il reste à mener, mais en enfin, de quel combat parle-t-elle? Allez voir sans doute celui des pointes séchées et des pores dilatés. Car oui, si nous avons des droits aujourd'hui, n'oublions pas que c'est grâce à nos chéris. Chaque droit que nous avons, c'est un homme qui nous l'a donné. Alors il serait temps d'arrêter de se plaindre, ok? Comment, Églantine, Corentin ne t'a rien offert à la Saint-Valentin? Tu veux dire, à part une citoyenneté presque égalitaire dans de nombreux pays de l'OCDE? Personnellement, je trouve même qu'on en a trop des droits. C'est comme les points SNCF grands voyageurs. Il y a des années, on les utilise même pas tous. Le droit de vote, par exemple. Pardon, mais quel intérêt d'aller s'enfermer dans une cabine un dimanche après-midi si c'est même pas les soldes? Et le droit à l'avortement. Si ça fait plaisir à notre chérie d'avoir un bébé, on va pas le priver. Et oui, peut-être que l'an prochain, finalement, il en aura plus envie. Mais qui sommes-nous pour le juger? Est-ce qu'on n'a pas toutes déjà acheté un perfecto? On le voulait trop et l'année d'après, en fait, c'était plus la mode. Voilà. Et puis tous ces droits, finalement, on les a que depuis très peu de temps. Faut faire attention, on sait toujours pas si c'est bien. C'est comme le vaccin du Covid ou le Pilates Reformer, on n'a pas assez de recul. Alors, vous me direz, ce sont les droits qui garantissent la liberté. Ouais, mais justement, la statue de la liberté, vous l'avez vue celle-là, avec sa torche et son sarouel. On dirait qu'en Fari, il a participé au relais olympique. Donc, les filles, le 8 mars, plutôt que d'aller manifester aux côtés de nos sœurs qui piquent, célébrons plutôt la générosité de nos hommes. Et surtout, qui dit droit, dit aussi devoir. Et les devoirs, il faut les faire le soir en entrant. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles conseils, pour de nouveaux conseils avec Coachella et abonne-toi.
Bravo, Camille Lavabre.
Superbe chronique.
Ouais. Camille Lava, oui, il n'a fait qu'accepter toutes tes idées. Absolument. Camille Lava, mais sur Netflix dans French Clover. Absolument. Et demain au cinéma, Chers parents d'Emmanuel Patron. Comédie familiale, film presque choral, finalement tout le monde a un rôle très très important dans l'intrigue avec ses trois enfants et ce couple de parents qui envisagent de partir faire le bien loin, loin. Et finalement, pourquoi ne ferait-il pas le bien ici en France, faire un orphelinat ici en France? Et ils trouvent toutes sortes de raisons les plus bêtes les unes que les autres pour faire en sorte que les parents restent prêts et que l'argent aussi reste proche d'eux. Et ça, c'est...
Mais il y a plus souvent, c'est vrai.
Voilà, elle est encore dans le rôle. Pauline Clément, c'est ça qui est pas mal. Elle veut qu'ils restent à côté, les parents qui continuent à financer, qui financent leur vie, finalement pour des enfants à qui on a interdit de jouer au Monopoly et à la bonne paye. Eh bien, regardez le film, parce qu'allez voir le film, parce que vous allez voir un petit moment d'André Dussolier qui pète les plombs. Et c'est un grand moment, vous savez, dans des comédies françaises comme ça, avec des personnages qui exultent et qui veulent une vie, une autre vie. Et le prof à la retraite, syndiqué, tout d'un coup, a changé un peu de braquet, André Dussolier.
Ah, mais c'est tellement bon de plus être parent, à un moment donné, soi-même, d'avoir les libertés.
On vous entend là, vous savez. Vous entendez.
Être débarrassé. Mais,
ça y est, le signal était donné. Là, tout à l'heure avec la chronique magnifique là, c'est-à-dire que c'est une grande journée de libération aujourd'hui, chacun va dire ce qu'il a envie de dire et voilà, ça va nous aider, ça va rétablir un peu une sorte d'équilibre, je sais pas, j'attends encore les autres chroniques, je sens qu'il y aura des révélations,
un coming out. Et vous feriez quoi avec votre argent pour vos enfants?
Bah, j'ai pas attendu de gagner un peu pour les aider, quoi, parce qu'évidemment, je trouve ça un peu stupide quand même d'attendre que je sois entre quatre planches pour qu'ils en profitent, parce que ça, la vie est tellement longue, ça sera peut-être un peu trop tard pour eux. Donc, il vaut mieux les aider aussi au départ. Je sais pas, on pourrait changer peut-être un peu cette loi là sur l'héritage. On en parle beaucoup, hein. Mais,
parce qu'on arrive à un moment de historique, c'est-à-dire il y a jamais autant d'argent qui ne sera transmis en fait que par l'héritage. Quand, en gros, pour être riche aujourd'hui, c'est pas tant le travail qui va vous faire devenir riche, c'est plutôt l'héritage.
C'est l'héritage, mais ce serait bien de le distiller peut-être un peu au début à qui en a besoin. Alors il y a les enfants peut-être, mais il y a peut-être aussi d'autres personnes. Mais on est toujours taxé, quoi, dès qu'on donne de l'argent. Et donc, alors que vraiment, il faudrait se pencher un petit peu sur le problème pour répartir un peu les choses et tenir compte du facteur de la vie qui s'allonge.
Oui, c'est ça. On vit de plus en plus vieux et donc on va hériter potentiellement...
Tard,
quand on n'en a plus vraiment besoin, entre guillemets. On s'intéresse à votre bande originale, à tous les deux, aux musiques que vous écoutiez. On va commencer avec vous, Pauline. En 86, vous écoutiez...
Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo.
Alors vous l'écoutiez pas complètement parce que 86 c'est votre année de naissance, Pauline.
Voilà, je viens de naître.
C'est ce que vos parents écoutaient?
Ouais, c'est ma grand-mère qui écoutait beaucoup Alain Souchon. Elle était très fière parce qu'elle elle le croisait dans le 6e. Alors elle m'a dit, oh, j'ai croisé Alain Souchon. Oui. Je lui ai pas dit bonjour, mais je l'ai croisé. Il m'a laissé passer. Il était en voiture, j'ai pu traverser.
Et il est sympa, ce Souchon.
Il est sympa.
Il
respecte
pas.
Le code de la route.
Ah, il est bien.
Et cette chanson, c'était un peu, oui, mon enfance.
Pourquoi Allô, maman Bobo ?
Mauvaise à l'école. Ouais. Un peu, comment vous m'avez fait, Allô, maman Bobo, quoi.
Votre mère était prof de français.
Oui, et mon père médecin. Et moi, je me disais, je suis nulle en maths, sûrement parce que ma mère est nulle en maths. Et je suis nulle en français, sûrement parce que mon père est nul en français. J'ai dû hériter dans le mauvais sens de leur talent, quoi.
Et être accompagnée à l'école, le soir à la maison, faire les devoirs avec une maman prof, on pourrait se dire que ça pourrait être plus simple, et en fait, non.
Bah non, parce que du coup, elle voulait absolument que j'apprenne, que je me tienne. Et moi, assez vite, je me suis dit, l'école, c'est pas mon truc. L'école m'aime pas, je l'aime pas non plus.
Ouais.
Voilà, je veux pas d'elle, elle veut pas de moi.
Il y avait un cours en particulier, une matière que vous aimiez plus que d'autres?
Bah, j'adorais l'expression écrite, raconter des histoires, sauf que quand je recevais mes notes, bah, comme je faisais des fautes d'orthographe, j'avais moins de points. Mm. Donc je me suis amusée, j'ai raconté une histoire qui m'a plu. Bah, et puis,
on vous sanctionne sur
pénalisée.
L'orthographe.
Ouais, donc ça ne m'encourageait pas.
Bah oui. Dans ces mêmes années, André, vous écoutiez. C'est votre livre humanitaire.
Bah oui.
Vous étiez généreux à l'époque.
Ah oui, à l'époque, oui. Il est pour l'Afrique toute entière. Et... Ah
oui. We Are The World, pourquoi cette chanson?
Je sais pas, ça fait partie, c'est 86, ça,
ouais,
c'est ça.
Ouais. Ouais.
Voilà, c'est ce qu'on entend, c'est ce qui nous berçait tous les jours. Et puis c'était, c'est 86, ouais, j'étais jeune, donc j'avais des idéaux encore. Ouais.
Et votre premier grand rôle, c'était Mélo.
C'était pas parasité par l'argent, comment?
Ouais. C'était à l'époque de Mélo, votre rôle.
Il y avait Mélo et il y avait Trois Hommes et un Couffin aussi.
Et oui, c'est vrai.
Donc
c'est
il y avait des surprises, comme ça, des bonnes surprises, parce que Trois Hommes et un Couffin, personne n'y croyait vraiment, mais trois hommes qui s'occupent d'un bébé, qui arrivent comme ça, là, vraiment. Et j'ai hérité du rôle, c'est drôle, parce que juste avant, j'avais fait L'amour à mort de Alain René. Mais personne ne voulait de moi dans Trois Hommes et un Couffin. C'est pas possible, mais personne, tout le monde avait refusé le rôle, parce que personne n'y croyait à cette histoire. C'était Rambo qui triomphait à cette époque-là, Sylvester Stallone, donc trois hommes qui s'occupent d'un bébé, et puis tout d'un coup, c'est les surprises du cinéma français, toujours une ou l'autre.
Et dans Mélo, vous aviez aussi un grand monologue.
Oui, c'était beau, c'était la première fois que j'avais un rôle qui était très riche, c'était Alain René qui avait fait ce film, et donc on avait répété très peu de temps, là aussi c'était à partir d'une pièce de théâtre, et c'était un rôle où j'avais toutes les émotions à ressentir, à jouer, à vivre, donc c'était vraiment, c'était avec Arditi, Azéma et Fanny Ardant, et donc c'était vraiment un beau souvenir, c'était le rôle quoi, qui m'a plu à ce moment-là.
Ouais, c'est un critère de lecture, j'imagine, quand vous découvrez un scénario, vous dites qu'est-ce que je vais pouvoir faire que je n'ai pas fait par le passé, ou qu'est-ce qu'on me propose d'expérimenter ou pas ?
Il y a tellement de films, je sais pas ce que en pense Pauline, mais il y a tellement de films qui sortent chaque semaine, je pense que c'est l'histoire d'abord, c'est plus tellement forcément les acteurs, mais quelquefois nous, acteurs, de notre point de vue, c'est l'histoire qui compte, c'est vrai, on se dit, tiens, comme un spectateur, est-ce que j'irai voir ce film-là ? Puis ensuite, c'est vrai, le rôle, et puis le metteur en scène, enfin l'ensemble, mais ça arrive pas si souvent que ça, et voilà, on peut être chanceux, parce que René nous a donné pas mal de beaux rôles, et puis d'autres aussi, metteurs en scène, donc voilà, mais c'est un point d'ancrage, ou un démarrage comme ça, qui peut être très, qui est enthousiasmant.
On passe à 2003, Pauline, vous écoutiez ? Jane Birkin, pour illustrer cette année 2003, où vous êtes inscrite en CAP esthétique, avec l'envie d'ouvrir un salon, un spa.
Oui, être directrice de spa. Oui.
Pourquoi briller ?
Et à la fois, je faisais mes premiers cours de théâtre, et j'écoutais beaucoup de chansons, j'écoutais Nostalgie, avec toutes ces chansons un peu qui étaient déjà d'époque, et je me souviens que je passais plus de temps à rêver que vivre ma vie, quoi. J'avais mes écouteurs, et je rêvais, puis il y avait ce cours de théâtre qui me plaisait de plus en plus, que j'adorais, mais j'y croyais pas, je pensais pas que je pouvais faire ce métier, je me disais...
Pourquoi ?
Parce que comme toute ma vie, comme à cause des études qui étaient difficiles, toute ma vie on m'a dit, mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Tout le monde était très inquiet pour mon avenir, très inquiet, donc je me suis dit, je vais pas me lancer dans un truc compliqué, alors que j'ai déjà un profil inquiétant. Je me rendais pas compte qu'en fait, j'aurais pas pu être directrice de spa.
Pourquoi ?
Mais en fait, il fallait avoir un côté savoir régir des budgets, oui, financiers. En fait, c'était un rêve impossible aussi.
C'est vrai que vous n'êtes pas très rassurante.
Voilà.
Non, mais non.
Puis je voulais à un moment travailler dans un institut de beauté, dans un grand hôtel, mais je parlais pas anglais. En fait, même mes rêves dans l'esthétique étaient impossibles, mais je les pensais plus concrets. Donc voilà, je rêvais beaucoup, j'écoutais Jane Birkin, et je marchais en rêvant, à plein de vies possibles.
Et vous avez des frères?
Oui, j'ai deux frères, comme dans le film.
Comme dans le film, oui. Ouais. Et que font-ils, eux, parallèlement, justement?
À cette époque-là ou maintenant?
Oui, enfin, dans ce qu'ils projetaient de faire dans la vie.
Mon frère, lui, il avait dit, quand il était petit, il avait dit je serai ou militaire ou journaliste, et il a été militaire et journaliste. Voilà. Donc, il a tout accompli. Tout accompli. Ouais. Et mon petit frère était, comme moi, dyslexique encore plus.
Ouais.
Et lui, il s'est dit, lui, il voulait faire médecine. Et du coup, en fait, quand t'es dyslexique, médecine, c'est compliqué.
Ouais.
Donc, il fait de la sophrologie, mais il a toujours ce rêve d'avoir un cabinet, d'être un docteur. Et en fait, c'est trop compliqué.
Ouais. La dyslexie, oui, on le dit pas assez, mais ça vient entamer considérablement vos chances ensuite de faire un parcours supérieur, en fait.
Oui, c'est ça. Puis quand on m'a réorientée, on m'a dit il y a pas de choix. Au début, j'ai fait de la mécanique et de la menuiserie, oui, parce qu'on m'a dit c'est où ça ou les bonnes sœurs.
Ah oui.
Et j'ai dit les bonnes sœurs, je le sens pas du tout.
Oui, non.
La mécanique, je préfère.
Ouais, mais oui, oui.
Mais il y avait pas beaucoup d'options, quoi. L'esthétique, c'était une option, mais il y avait pas tellement de CAP. Il y en a peut-être plus aujourd'hui, mais il y avait pas. C'était restreint.
Dans ces mêmes années-là, André, vous écoutiez.
Oui.
Et là, c'est le rocker qui apparaît.
Ah ouais, là.
Le winner.
Là, il est en confiance.
Il a gagné le jackpot.
Et dans ces années-là, avec Queen dans les oreilles, André, vous mettez en scène et interprétez les athlètes dans leur tête.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est?
Alors, ce sont des monologues écrits par Paul Fournel, et j'aimais bien parce que les sportifs en général, quand ils sont interviewés, ils disent bon bah oui, non, j'ai marqué 5 buts, mais enfin c'est un travail d'équipe, on fera mieux la prochaine fois, ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est des phrases toutes convenues, quoi, disons. Et puis là, Paul Fournel fait parler des sportifs, mais vraiment révèle leur état intime, le footballeur, le cycliste, enfin vraiment.
Vous
le lanceur de poids.
Vous êtes un football, faut le dire.
Comment?
Vous êtes un football.
Oui, j'aime beaucoup. Et donc du coup, c'était vraiment agréable de pouvoir justement réunir les deux passions, théâtre et foot et sport, pour dire des choses qui sont vraies, quoi, et qui étaient très bien écrites par Paul Fournel. Donc du coup, j'avais envie de réaliser ça avec très peu de moyens. J'ai commencé par un skieur qui c'était juste avec une serviette blanche qui représentait la piste de ski. Et puis après,
vous avez joué beaucoup de sportifs ou
comment
pas? Vous avez joué beaucoup de sportifs dans votre carrière?
Pas tant que ça, je crois pas, mais j'aurais bien aimé. Ouais, je rêvais, je comprenais pas pourquoi on donnait à Lanvin et Giraudeau la possibilité de jouer des spécialistes et d'escalader.
Oui, pourquoi?
Moi, j'adorais ça.
Et jamais. C'est vrai, la cascade.
J'avais vraiment je me déplaçais de la chaise au canapé. On pensait que c'était à peu près mon
quel manque d'imagination.
On voyait pas comme un sportif.
Bah oui. C'est vrai, ça, Pauline. Est-ce qu'on manque d'imagination pour vous dans les rôles? Est-ce qu'on vous voit pas aussi escalader des falaises ou faire des choses
Moi, je rêve de jouer une grosse cassos. C'est mon rêve. Et je pense que je suis partie dans des rôles plus bourgeois ou je sais pas. Je rêve de jouer. Je pense qu'il y a une partie cassos en moi qui peut ressortir. J'attends ce rôle. Une mère qui fume des clopes avec sa poussette qui essaie de se démarrer dans la vie. C'est mon rêve.
D'accord, ok. Je crois que ça. J'espère
que Pauline a des projets. Hein.
Là, j'ai des projets.
On passe à 2008. Pauline, justement, vous écoutiez. Roland, I feel you. It is May about these days. I specialize in. Parlez-nous de ce morceau.
En fait, c'était dans un spectacle.
Get Well Soon.
Ouais, c'était la dernière année du conservatoire. Et là, j'avais rencontré Bertrand Huskla, avec qui j'ai fait Brut après. Et je lui ai dit, il y a les cartes blanches, on pouvait faire des spectacles. J'aurais bien fait quelque chose, mais j'ai pas fait de dossier, j'ai raté la coche. Il m'a dit, viens, on essaye d'écrire quelque chose. Et en fait, lui, il voulait. En gros, il avait son rêve de faire des blagues, d'écrire des choses. Et je pense que comme il osait pas s'écrire un spectacle et jouer lui-même, ce qu'il est en train de faire là maintenant, pour lui, pas mal d'années plus tard, il m'a dit, on va écrire un truc. En gros, je pense qu'il s'est dit, on va tester des trucs.
Ouais.
Et on a écrit un seul en scène que j'ai joué à l'école, au conservatoire. On a mis des affiches, puis on a dit dans une salle de cours. On avait deux copains qui étaient derrière les projos et qui changeaient à la main les couleurs. Ils avaient ensemble de gélatine, puis ils se faisaient un signe pour mettre bleu, rouge. Voilà, on avait une petite enceinte et j'avais cuisiné des cupcakes pour tout le monde, pour toute la salle. Et après, on a fait ce spectacle. C'était avant de rentrer à la Comédie Française. On a fait ce spectacle dans un autre théâtre à Paris qu'on a loué nous-mêmes, où juste nos amis venaient et des amis d'amis. En plus, le théâtre a commencé à nous arnaquer. On s'est dit, mais c'est vachement dur, ce métier.
Ouais, ouais.
C'était la galère. Et j'allais dans des bars en essayant de demander si je pouvais, dans les toilettes, scotcher l'affiche. C'était une photo de moi avec un écureuil sur la tête. Et voilà, c'était on essayait de s'en sortir.
Vous avez de la nostalgie de cette époque-là?
Ben oui. Puis en fait, quand j'ai passé les concours des grandes écoles, je me suis dit, si jamais j'ai une école nationale à la sortie, c'est bon, je vais travailler. Et puis la chute à la sortie, de se rendre compte que c'est super dur, que trouver les financements, que si t'es pas connu, ta tête sur l'affiche, c'est pas connu, le nom du spectacle, c'est pas un Molière, c'est, ben, du coup personne t'attend, personne ne va venir par hasard voir dans un petit théâtre un spectacle qu'on connaît pas.
Vous êtes toujours en contact avec l'écureuil?
Avec l'écureuil, il est toujours un peu là.
On accueille une autre Pauline, Pauline de la Motte Rouge, bonjour. Vous êtes médiatrice patrimoniale, Pauline. Alors là, ça suscite beaucoup d'intérêt de notre part. Vous avez signé avec Caroline Morel Argent et Famille, en parler pour prévenir les conflits aux éditions Maxima. C'est à paraître le 4 mars prochain. Sacha Guitry disait, il n'y a pas de famille heureuse tant qu'il n'y a pas eu d'héritage. Vous allez peut-être nous confirmer cette maxime. Qu'est-ce que c'est d'abord être médiatrice patrimoniale?
Alors, j'accompagne les familles qui sont en désaccord ou même en conflit sur des questions financières et patrimoniales. Et l'idée, c'est de les aider à trouver des solutions, tout en sachant que, en apparence, ça semble toujours être une question de droit ou une question financière.
Oui.
Et en réalité, c'est toujours une question relationnelle. Donc, en médiation, on traite le tout, c'est-à-dire autant la relation que l'argent. Et on est convaincu que pour trouver une bonne solution, il faudra traiter tout d'abord la relation pour pouvoir ensuite traiter les questions financières.
Et oui, donc ça veut dire que si c'est pas les relations dans la famille ne sont pas soldées, propres, à jour,
purgées, aplanies.
Purgées, mais ça n'existe pas.
Bah oui, comment vous faites?
Donc il y a toujours des problèmes, oui, d'où l'existence de ce métier.
Oui, mais en fait, alors la majorité du temps, en fait, on commence nos rendez-vous de médiation en leur disant on va réfléchir à qu'est-ce qui fait que ça bloque, où est-ce que se trouve l'origine. Alors l'origine, c'est amusant parce qu'on le voit bien dans le film, chacun a son origine. D'où l'intérêt de la discussion en famille, parce que ça permet à chacun de pouvoir s'exprimer et de dire la manière dont il voit les choses, et on voit toujours différemment les choses. Et c'est amusant que récemment j'entendais, on disait finalement, en étant dans une même famille, on a tous notre propre histoire familiale.
Oui. Eh bien, on a des parents différents.
Voilà. Et donc c'est ça dont on vient discuter en médiation. On vient dire ces blocages,
c'est un rôle d'opsy presque de la famille.
Alors il y a une vertu thérapeutique. Oui. Rien que le fait de s'exprimer, en fait, ça fait du bien.
Donc ça veut dire que les gens arrivent en disant « moi je prétends à ça dans l'héritage familial » ou « je mérite ça » ou « quelle est justement la façon d'exprimer ça, ce rapport à cet argent-là qui n'est pas à soi d'ailleurs ?»
Alors c'est amusant parce qu'en fait on a toujours une position.
Oui.
On se dit toujours « voilà ce qui me semble juste » et tout le monde vient en disant « c'est hyper factuel, en fait ce qui semble juste, pas besoin d'en discuter, voilà ce qui me revient. » Et nous on vient leur dire « en fait ce qui vous semble juste ne semble pas juste à votre frère ou à votre sœur ou même à vos parents qui n'ont pas décidé ainsi. » Et donc, du coup, il va falloir parler de ce qui semble juste, parce que c'est hyper subjectif. Et donc, l'argent, c'est toujours teinté d'amour, de reconnaissance, de réparation. Et c'est de ça dont on vient parler en médiation. On vient donner du sens à ces questions financières. Et c'est essentiel, parce que sinon, en fait, on reste sur des blocages et on reste sur des positions et très, très compliquées à discuter.
Oui. Est-ce que c'est très fréquent ou de plus en plus fréquent, justement, les parents qui décident de ne pas faire hériter leurs enfants? Parce que vous intervenez à quel moment? Parce que j'imagine qu'il y a un héritage, il y a un testament qu'on a rédigé, il y a les règles de la loi française aussi qui sont supérieures. À quel moment vous intervenez si par exemple des parents disent « moi je veux pas que mes enfants héritent » ?
Alors on intervient dans la majorité des cas au moment du décès, donc une fois que les parents sont pas là, et j'ai tendance à dire que c'est un peu dommage et un peu tard parce que les parents sont pas là pour porter leur parole. Et ce que je trouve super dans le film, c'est que finalement les parents, ils ont ce courage, et ça demande énormément de courage, et l'exigence de la discussion en famille.
Oui.
Et donc ils viennent expliquer leur choix, et je pense que des tels choix qui consistent à donner une grosse partie de de l'héritage à d'autres, autres que la famille. Oui. Dans la mesure où c'est pas une évidence, et on le voit bien pour les enfants, ça paraît non. fou quand ils parlent de l'argent des parents, ils parlent de notre argent, là où les parents vont dire notre argent du couple. Donc on voit bien le distinguo. Et donc du coup, c'est important d'en parler, c'est important d'expliquer ses choix, tout en sachant qu'en droit, on peut pas déshériter ses enfants. Pas. Donc il y a un fantasme de « je déteste mes enfants, ils n'auront rien », c'est pas possible.
On peut tout dépenser.
Alors, on peut tout dépenser, oui. en sachant que les enfants, je vous rassure, en médiation, ils demandent les comptes sur 15 ans, on épluche toutes les dépenses, on se pose la question du liquide, pourquoi on attire autant de liquide.
Ah ouais.
Non, il faut, voilà, quand on cherche, on trouve.
Donc on peut attaquer ses parents en justice?
Alors non, on peut pas attaquer ses parents en justice, mais en revanche...
Elle est là. On t'entend. Non,
c'est raté.
Oui. Mais
on peut, au moment de la succession, et c'est pour ça que les familles arrivent souvent à nous à ce moment-là, on peut, du coup, réclamer sa réserve, qui est la part irréductible de ce qui nous revient en tant que descendant. Donc on peut réclamer ça au moment du règlement de la succession.
D'accord. Qu'est-ce que ça dit de nous, en fait, du monde dans lequel on vit, de se dire qu'on ne veut pas faire hériter ses enfants, que de plus en plus de riches milliardaires veulent léguer à des fondations?
Alors moi, je pense que ça existait de tout temps. Ouais. Je ne sais pas si c'est propre à la période.
On en parle plus aujourd'hui, peut-être.
Oui, peut-être. Ouais. Mais en réalité, nous, on le voit, quelle que soit la taille de la succession, quels que soient nos moyens, il y a toujours cette question du sens de la transmission. À qui on veut donner? Alors le sens de la transmission, on a toujours l'impression que c'est la famille. C'est évident qu'on transmet aux enfants. Mais quand cette évidence ne l'est plus, il faut le dire.
Ouais. Quel conseil on donne? Donc, en parler de son vivant.
En parler de son vivant, en parler à ses enfants, ne pas en parler seul dans le bureau du notaire, mais finalement oser cette discussion en famille,
ouais.
Se parler. Ça veut dire parler, mais également écouter, prendre l'autre en considération, se dire qu'on pense pas tous de la même manière et devoir faire un peu avec cette part d'altérité. Et puis quand c'est trop compliqué, aller en médiation.
Donc Pauline de la Motte Rouge, tout simplement, à consulter en cas de difficulté. Merci Pauline d'avoir été avec nous. Tanguy, de quoi est-ce qu'on parle tout à l'heure?
De Ponche, le bébé macaque du zoo de Tokyo, rejeté par sa mère, maltraité par les autres macaques. Vraiment, à part Ponche, je déteste les macaques.
Tour de la bande originale sur France Inter, soyez les bienvenus avec Paul Plac.
Mais oui, bonjour à toutes et à tous.
Camille Lavabre.
Bonjour.
Emma Beaujean. Tanguy Pastureau. Oui. Daniel Morin est là aussi.
Camille.
Ça va, Dani?
Ouais.
Et nos invités Pauline Clément et André Dussoulier.
Non. Bravo.
France Inter, la bande originale.
Après ce moment instructif avec notre spécialiste sur la médiation liée à l'héritage, nous allons poursuivre cette émission autour de l'argent, encore une fois, qui est au cœur de ce film « Chers parents », ce film d'Emmanuel Patron, avec voilà, le début du film. Tout le monde rêve de gagner à la loterie, mais tout le monde n'imagine pas à quel point les problèmes en vue vont s'accumuler et que les valeurs parentales vont être mises à rude épreuve. Gagner de l'argent, c'est bien, l'annoncer à ses enfants, c'est questionnable, au point où on pourrait se dire il pourrait très bien ne rien dire.
Et oui, c'est ce qu'il nous reproche à un moment donné. Ouais. Il fallait fermer vos gueules. Me disent-ils directement. Ben oui, bien sûr, d'accord. Et puis à un moment donné, le père dit, mais oui, t'aurais été tellement facile de faire un chèque. Ben oui, ben faites-le. Alors pourquoi vous ne donnez pas? On veut pas. Nous, on veut kiffer tout de suite. Voilà. Ah bon, bref, il y a toutes les réactions possibles, imaginables et crédibles que tout le monde s'amusera à retrouver, quoi. Évidemment, à travers les enfants et les parents.
C'est ça. On a tous fantasmé recevoir beaucoup d'argent. Ce qu'on en fait, à qui on le donne, à qui on le donne pas, si on en parle, si on n'en parle pas,
ouais.
Et si on continue à vivre naturellement ou si on change complètement de style de vie.
Ouais, c'est ça. La présence de la conseillère était formidable. En micro, je lui ai posé des questions. Évidemment, moi, j'ai un banquier qui me disait une formule que j'adore, mieux qu'un ami, un banquier. Évidemment, un banquier est au courant de tout, bien sûr. Et évidemment, on peut se confier. Et chacun peut se confier.
C'est vrai, c'est vrai. Après, ça dépend de combien on dispose, bien entendu, pour avoir cette relation aussi privilégiée avec son banquier. En tout cas, voilà, quand ce couple de parents convoque en urgence ses trois enfants, on sait qu'on va avoir le droit à des scènes de comédie géniales, parce que chacun des trois enfants parle de là où il est, à savoir de sa situation familiale, de son rapport avec ses parents. Le petit dernier, qui ramène encore son linge à la maison, on se dit bien qu'il doit avoir un rapport différent avec ses parents, qu'il doit sans doute oser moins dire les choses. tout comme votre personnage, Pauline Clément, celle qui est entre les deux garçons, la seule fille qui pourrait avoir un lien particulier avec le père, qui est un peu protégée aussi. Donc on va découvrir au fur et à mesure dans le film lequel de ces trois enfants va peut-être mener la rébellion la plus puissante. Et on a une surprise.
On a une surprise, oui.
Ouais, on ne s'attend pas forcément à ce personnage-là. Une somme colossale, une envie de faire le bien dans le monde, ça c'est l'envie des parents. Et puis ça se gâte nécessairement avec
J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, pour gravir le sommet.
Alors là, ils n'ont pas travaillé toute leur vie pour ça. Ils ont touché de l'argent qui est tombé du ciel. Mais le père rappelle bien que même en donnant 100 000 euros à chacun de ses enfants, 100 000 euros, c'est les économies d'une vie.
Oui, c'est colossal quand les enfants apprennent ça. Et puis après, il y a encore... Vous avez bien fait de dire que c'est de surprise en surprise, quoi. Il y a des coups de théâtre sans arrêt pendant ce film-là. Parce que tant qu'à faire, tant qu'on touche au domaine de l'argent, bien sûr, on peut aller le plus loin possible pour servir de... Ça sert de révélateur à chacun.
Bien sûr, c'est une sorte de... Oui, c'est un baromètre un peu des émotions, des relations dans une famille. Cette comédie, Chers parents, présentée à l'Alpe d'Huez... Eh bien, elle vous attend ce mercredi au cinéma avec nos invités André Dussolier, Pauline Clément de la Comédie Française, ainsi que Miu Miu, Arnaud Ducré et Thomas Soliveres. C'est savoureux. Et tout de suite, dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau.
Oh, bravo.
Allez, Tanguy.
Bien, récemment, je vous racontais l'histoire de cette chambre d'hôtel que j'avais eue et qui était tellement petite que j'avais pas pu déplier ma valise, ni mon corps d'ailleurs. Hein. J'avais dormi debout, comme les chevaux. Le lendemain, j'aurais pu me faire monter par Guillaume Canet.
Oh non,
Caen. Et ben, ce week-end, j'ai rejoué à Caen. Je suis une star locale, un mix de Guillaume le Conquérant et d'Orelsan. Sauf que là, j'étais pas au Campanile comme la dernière fois, mais au Mercure. J'ai la même vie que les Tons Rouges. Tenez-vous bien, j'étais dans une chambre privilège. Vous, gens de gauche, vous n'avez rien à foutre de tout ça. Une tente quechua sur le parking du Lidl, vous êtes bien, avec une 8-6 décapsulée avec la dent qui vous reste. Mais moi, j'aime le confort. Je suis sûr que Dieu, après avoir créé l'Éden, avec Adam et Ève, là, le couple de nudistes vegan, je suis sûr qu'après, il a créé la chambre privilège. Petite cafetière Nespresso, peignoir. J'avais l'impression d'être à la fois Georges Clooney et DSK. Wow. Dans la salle de bain, il y avait de la notion pour le corps nux. Je m'en suis mis 4 couches. Mon épiderme a mis 12 heures à tout assimiler. Techniquement, j'étais une zone inondée. J'étais surpris que Vigicru parle pas de moi.
Non.
Et cerise sur le gâteau, beurre sous le camembert, comme on dit en Normandie. La direction de l'hôtel m'avait mis des Jeannettes, qui ne sont pas des prostituées locales qui auraient eu le même prénom par hasard, mais des Madeleines. Ça a changé le showbiz. Hein. Led Zepp s'y commençait aujourd'hui à la place du saladier de coke à s'enfourner dans le nez. À l'appel à tarte, on leur foutrait un petit nougat à chacun sur l'oreiller. À côté des Madeleines, il y avait un mot de la direction. Je vous le dis. Cher monsieur Pastureau, quand vous sortez de la salle de spectacle où toute l'équipe technique pendant 2 heures vous a dit « ça va, man ?» Ça fait du bien de lire « cher monsieur Pastureau ». Je lis la suite. Habitué à manier les mots, nous espérons que vous trouverez ici un cadre propice à quelques bonnes inspirations.
Oh,
raté, il était minuit quand je suis revenu dans la chambre. Sur TMC, il y avait un reportage 10 jours avec les gendarmes du Sud-Ouest. J'ai regardé, on voyait des gendarmes du Sud-Ouest arrêter les gens ivres, donc tout le monde. Hein, c'est le concept du Sud-Ouest. À un moment, ils se sont même arrêtés eux-mêmes. Je finis la lecture du mot. Toute l'équipe reste à votre disposition pour que votre séjour soit aussi confortable que discret. Et là, ça m'a surpris. Me souhaiter un séjour discret peut vouloir dire 2 choses.
Ouais.
Soit que je ronfle comme un porc, il y a le groin bouché et que les hôtels se refilent l'info. Si vous avez Pastureau, personne ne va dormir. Ils espèrent que je serai discret pour une fois. Soit qu'ils me prennent pour une star et qu'ils promettent de ne pas dévoiler ma présence dans l'établissement. Comme si je risquais de me faire harceler par mes groupies. Ils m'ont pris pour Usher ou Michel Onfray. En fait, des sexes symboles qu'on a envie de frotter, quoi. Alors que moi, je suis discret de nature. Rien que le fait que j'aille dans un hôtel suffit à le faire disparaître de Google Maps. Si ça se trouve, ils ont fait surveiller ma chambre toute la nuit en se disant, il y a une fan de Daniel Morin de 82 ans, frustrée de ne pas le voir à Caen, qui va chercher à canaliser sa fureur en agressant Pastureau, mais ça m'a rendu parano. Mais au buffet du petit-déj, j'ai crié à une vieille dame, je vois votre jeu, satire, venir se mettre à 18 tables de moi, tu veux pas non plus t'asseoir sur mes genoux. Elle a pris 3 mini-saucisses qu'elle a mangées en me regardant droit dans les yeux, mais la perversité des seniors. C'est pour ça que je vais pas dans les clubs de bridge, j'ai toujours peur que ça finisse en orgie avec une coupelle à l'entrée de la pièce pour que tout le monde dépose ses dents. Oh, j'ai eu l'impression au Mercure de Caen d'être une star, comme Ponche.
éponge, vous voyez ? C'est ce petit macaque d'un zoo japonais qui a été abandonné par sa mère. Elle l'a eu juste pour toucher la cave, cette connasse. Donc ses soigneurs ont eu l'idée de lui donner une peluche de singe. Et le petit lui fait des câlins. Il est trop mignon. Il se blottit contre la peluche. Moi, j'ai un cœur de pierre. Hein. Même à la fin de Titanic, j'ai pas pleuré. J'étais juste dégoûté que le bateau coule parce que je voyais le côté business. Je me disais, les actions de la White Star Line ont dû dévisser. Mais là, ce petit singe, mais je fonds. Le monde entier suit en vidéo tout ce qu'il fait. Vendredi, un macaque adulte l'a maltraité. Ouais. J'ai cru qu'Internet allait planter tellement il y avait de gens qui voulaient péter la gueule de ce macaque. Ce macaque est encore moins populaire désormais qu'Emmanuel Macron. On suit tout en direct. J'ai vu samedi sur X une alerte info disant, je cite, « Le bébé macaque ponche s'est fait voler son bâton par un singe. » Avec la vidéo, mais jamais j'étais aussi prêt à prendre un billet sur la Japan Airlines pour un aller-retour juste pour aller dérouiller cette crevure de macaque. Mais qu'est-ce que ça te fait qu'il ait un bâton ? Je veux dire, il n'y a que ça des bâtons. C'est comme les cartes du Parti Socialiste, personne n'en veut normalement, quoi. Mais les internautes sont révoltés, ils écrivent qu'ils pleurent toute la journée en voyant Ponche se faire tabasser. Et moi aussi. Mais moi je dis, les allergies au pollen arrivent tous, c'est évident. À tel point que le zoo a dû communiquer. Alors d'après eux, la situation est normale. Hein, ce sont des gens qui ne sont jamais fait voler de bâton. Une vétérinaire contactée par France Info explique que les macaques font ça. C'est normal, ils sont dans le conflit. Elle dit, il ne faut pas voir ça avec un regard humain, mais avec un regard de macaque. Ah oui, mais qui a un regard de macaque à part un macaque? C'est ça le problème, c'est que nous sommes des animaux différents les uns des autres. Je vois bien que quand je dis à un chat, super, ce soir c'est soufflé au fromage. Bon bah je le laisse indifférent. La preuve, il se lèche l'anus. Alors que si je dis la même chose à Oldolaf, il va vite arrêter de se lécher et ça va partir en soirée soufflée. Hier, le bébé singe a été câliné, les amis, par un singe adulte. Ouf, du répit. Tant mieux, parce qu'avoir les larmes aux yeux H24, c'est pas humain. C'est même pas macaque.
Oh. Bravo, Tanguy. Et Tanguy est sur scène dans un hôtel...
Et bien sûr, dans un hôtel de grand luxe. Bien sûr. Vers Cognac, à Val-de-Cognac. Et ce sera samedi.
Absolument. Et Chers Parents est au cinéma. Et on continue d'en parler avec nos invités Pauline Clément et André Dussolier. Et tout
André,
suite.
Pas André.
André, pardon. André Dussolier. Enfin, chez vous. Et on écoute tout de suite Allo et Black, I Need a Dollar sur France Inter dans la bande originale.
Share your
Johnny de Dollar sur France Inter, Aloé Black. Petit clin d'œil à Chers parents, le premier film d'Emmanuel Patron tiré de cette pièce de théâtre en salle ce mercredi. Une comédie qui vous fera du bien, qui vous interrogera sur vos rapports familiaux. Est-ce que tout est purgé? Est-ce qu'on a vraiment parlé de tout? Est-ce que dans la fratrie, on se sent à égalité avec ses frères et sœurs? Pauline, vous vous sentez à égalité? Vous sentez privilégiée, en tant que seule fille d'ailleurs, comme dans le film?
Pas forcément privilégiée, mais je ne sais pas si on est à égalité, on est toujours un peu...
Oui.
Comme vous disiez tout à l'heure, les parents ne sont pas forcément les mêmes, selon la période, un enfant, deux enfants, trois enfants. Moi, je pense qu'on ne peut jamais vraiment être à égalité.
Et vous, André, vous avez l'impression de maintenir à égalité vos enfants?
Alors, oui, moi je suis fils unique, j'ai pas...
Ah oui, c'est pour ça que je suis dans le
oui,
sens.
On maintient, mais alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est les pièces rapportées, évidemment. C'est-à-dire qu'une fois que les enfants, évidemment, connaissent ici ou là d'autres personnes...
L'amour.
Ça peut influer quand même aussi leur rapport à l'argent ou à la différence, ou à accuser la différence qu'il y a entre eux.
C'est vrai, c'est eux qui pourraient venir pointer quelque chose dont on n'aurait pas nécessairement parlé. Donc faites attention à vos fréquentations. En gros, ça c'est le message du papa. Pour chers parents, ce film d'Emmanuel, Patron tout de suite dans la bande originale, c'est l'hommage d'Emma Beaujean.
Ah, oui.
Bravo. Bonjour tout le monde. Alors tous les jours dans cette émission, je rends un hommage et aujourd'hui j'ai décidé de rendre hommage à la maison. Alors, une maison... Ah oui, merde, il faut que je t'explique, Olaf. On verra plus tard, mon chou. Alors, la maison, c'est chez soi. C'est son à soi. C'est son petit endroit à soi. C'est un petit cocon, même si je suis d'accord avec Nagui, qui me disait encore la semaine dernière que son petit cocon peut avoir 7 salles de bain, ainsi qu'un bassin olympique intérieur dans lequel il y a des jet skis. Et hors antenne, Daniel Morin me disait qu'on peut même avoir un petit chez soi dans lequel on vit, et puis un autre petit chez soi dans lequel on vit aussi avec une autre famille, d'autres enfants, une autre femme, mais qui s'appellerait aussi Sylvie, pour que ce soit plus simple à retenir. Et on a récemment découvert qu'on peut aussi avoir un autre chez soi, mais plus petit, sous les toits, dans lequel on reçoit d'autres Sylvie, aussi des Nathalie, des Sophie, Stéphanie, enfin, toute femme née entre 1960 et 70. Et évidemment, on peut partager son chez soi avec quelqu'un d'autre. Ça s'appelle une coloc. Moi, j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai partagé un appart avec mes deux meilleures copines. Je sais que Tanguro, je t'embrasse. Tanguy Pasturo fait pareil, c'est plus rapide, c'est pour ça. Après, moi, mes copines n'étaient pas menottées à leur lit dans une cave insonorisée. Donc, c'est pas exactement pareil. Mais bon, qui juge ça? Un juge d'instruction, j'espère, bientôt. En tout cas, on juge pas à quoi ressemble la maison des autres, puisque par définition, être à la maison, c'est être là où on se sent bien. C'est important de se sentir bien quelque part. C'est aussi pour ça que c'est important que son chez-soi soit accueillant. Mmh. Nous, ici, on essaye de faire en sorte que les invités se sentent à l'aise. Ouais. C'est pour ça qu'on a tous reçu un mail de la rédaction pour nous demander d'enlever nos manteaux, nos lunettes de soleil et de répondre au moins à une personne quand ils nous disent bonjour. Non,
oui.
Okay. J'ai reçu ce mail toute seule. Mais c'est vrai, on les reçoit trop bien, nos invités ici. C'est une maison tellement accueillante, on les met tellement à l'aise, je pense qu'on pourrait recevoir Guy Georges et Nagui pourrait lui dire « Et donc en 75, vous écoutiez les Sex Pistols !» C'est une révélation pour vous. Et j'oublie pas que c'est pas toujours facile de trouver un chez-soi, on en parlait avec Camille à l'instant. Je l'oublie pas parce que ça me concerne directement. Mon dossier, ne serait-ce que pour louer un appartement, dessus il y a écrit « Saltimbanque !» à l'encre rouge. Le dossier est relié dans un tissu qui a été découpé dans un sarouel avec des taches de 8-6 dessus, d'accord ? C'est pour ça qu'on s'attache à son chez-soi parce que au moins lui, il veut bien de nous. Moi, j'y suis bien chez moi. J'y suis bien comme dans le ventre de ma mère, Nathalie. Et j'ai évidemment évité le regard de Daniel Morin en disant cette phrase. Moi, le jour de mes 12 ans, c'était mon 12e déménagement. J'ai passé ma jeune vie à construire aussi vite que tout allait se détruire, se faire des amis, roder sa présentation en information clé comme si je faisais de la promo en plateau à chaque fois que j'arrivais dans une école primaire. J'ai vite découvert qu'il valait mieux cacher ou montrer des choses. Par exemple, faire des blagues, montrer. Parler de sa peur fondamentale des escargots et de la mort, caché. J'ai dû me roder au cours des déménagements. Ça explique par exemple pourquoi j'ai eu plus d'amis à Nîmes qu'à Mont-de-Marsan. Parce que j'avais tenté l'approche sincère avec les escargots à Mont-de-Marsan. Je suis vite, très vite devenue l'enfant bizarre au fond de la classe avec un patch Cars sur l'œil qui mangeait sa colle Cléopâtre en disant « Vous trouvez pas les filles, le goût il est sensationnel, le frisson quand même quand tu l'approches de ton nez, les filles ?» Et bah, tu ressembles à une tox, tu as 8 ans. Mais bref, aujourd'hui j'ai 24 ans et dans un lundi comme celui-ci, j'arrive à vous parler avec mes blagues et ma peur des escargots à la fois. En fait, de la, je crois que c'est ça, en fait, sentir à la maison. C'est plutôt à ça que je rends hommage. Merci.
Ah, bravo, Emma Beaujean.
Sur scène à Paris, Emma Beaujean, c'est le mardi, c'est à 19h, tous les mardis, au théâtre Le Pic.
C'est ça. Et chers parents, au cinéma, mercredi, avec la question que des enfants posent à leurs parents, mais qu'on ne ferait pas à l'inverse, c'est-à-dire combien vous avez, mais ça vous regarde ou pas? C'est vrai qu'on ne pose pas cette question-là à ses parents. Les parents ne sont pas sommés de répondre à l'argent dont ils disposent. Est-ce qu'on pose cette question à ses parents, Pauline? Non?
La question de...
Ça regarde pas les enfants de savoir combien les parents ont sur leur compte.
Ouais, mais quand les parents posent la question au grand frère, c'est pareil, il dit non mais.
Et oui, il va pas communiquer là-dessus.
C'est vrai que c'est toujours une question gênante de demander aux gens combien tu gagnes, combien t'as sur ton compte.
Même à ses parents.
Moi, j'ai jamais demandé à mes parents combien ils gagnaient.
Non. Vous, André, vous avez tout demandé ?
À un moment donné, si je veux anticiper le problème de l'héritage, il vaut mieux que j'en parle un petit peu avant. Non, mais c'est pas mal, c'est plus sain, quoi. Donc après, je sais pas, après, c'est une question de gestion, de rapport, de voir les différences, mais il faut éviter le combat, quoi. Donc c'est pour ça que c'est bien de s'y prendre avant.
Et alors, chers parents, on va soulever toutes ces questions chez vous. Vous allez pouvoir, comme ça, préparer tranquillement, discuter en famille sur ce que représente l'héritage, la suite, cette succession. Et c'est aussi cinéma ce mercredi. On va parler des projets et il y en a beaucoup qui arrivent. Pauline, je commence par vous. Tout à l'heure, André y a fait allusion à ce film de la Comédie française. C'est le nom du film oui. De Martin Darondo et de Bertrand Huskla qui a été salué à la Comédie de l'Alpe d'Huez.
Oui, c'est ça. C'est une fiction qu'on a tournée à la Comédie française avec des acteurs de la Comédie française dedans.
Laurence Stoker, Julien Frison, ouais, c'est ça. C'est quoi l'histoire ?
C'est le soir d'une première, c'est la première d'un spectacle, c'est Macbeth. Et rien ne se passe comme prévu. On suit un enchaînement de problèmes jusqu'au lever de rideau.
Sorti fin juillet 2026, le 22 juillet, je crois que c'est la date
oui, c'est ça.
Communiquée pour l'instant. Mmh. On va vous retrouver aussi dans Une fille en or, ce sera en avril, de Jean-Luc Gaget avec Arthur Dupont et Émilie Caen.
Oui, ça c'est comme une sorte de... comédie romantique, mais entre losers, quoi. On a vu beaucoup de comédies romantiques entre personnes magnifiques.
Vous voulez faire une cassos ?
Voilà. C'est pas tout à fait une cassos, elle est un peu rêveuse, mais elle n'est pas adaptée forcément, elle n'a pas confiance en elle, elle n'est pas très adaptée à la vie sociale, et lui non plus. Et ils se rencontrent et
ils s'aiment.
Et ça change quelque chose en eux.
D'accord. Du théâtre aussi, La Puce à l'oreille. Oui. La Comédie française est en travaux, donc en fait, elle joue partout. Et là, ça sera à Nanterre.
Oui, c'est ça. On part à Nanterre à Mandier. Et c'est Lille au bord qui met en scène cette pièce qu'on joue depuis plusieurs années maintenant et qu'on adore jouer.
Et ça change quoi de changer d'endroit ?
Je sais pas, je n'y suis pas encore allée.
Oui.
Mais non, on est contents. Ouais, c'est... Je pense qu'on se sent plus libre quand on est dans un autre théâtre, je sais pas.
Ouais. Ouais. Et alors, plus proche de nous, il y a les Césars. Il y a la cérémonie des Césars que Benjamin ouais. Laverne va orchestrer. Mmh. Et vous faites partie de ses complices.
Oui, c'est ça. On vient avec Marina Hans, toutes les deux, remettre deux Césars jeudi. Et voilà, on a la trouille.
C'est vrai.
Bref, on est excitées, contentes, amusées, la trouille, mal organisée, mais un peu organisée. C'est tout en même temps.
Les textes sont faits. Les répétitions sont faites ?
Non, les répétitions ne sont pas encore faites. Il y a un premier texte à améliorer, ouais. Des habits à trouver. tout est en devenir. C'est jeudi, on est lundi. Tout est devant
nous. On est large. On est très, très large. absolument. André, aussi, de belles choses au cinéma. L'adoption, ça sera dans quelques temps, en janvier 27 ?
Oui, exactement. On ne sait pas trop les dates de sortie des films, mais c'est avec François Damiens, c'est un film d'Yvan Calberac, et c'est tiré d'une bande dessinée, et qui est très émouvante, mais avec François Damiens, il y a aussi une partie très drôle.
Il y a Jupiter aussi.
Alors Jupiter, oui, c'est pas un film sur le dieu de l'Olympe, vous savez ce que c'est Jupiter, c'est une salle qui se trouve à 50 mètres sous terre en dessous de l'Élysée, et c'est là que les grandes décisions se prennent quand il y a un danger atomique, on va dire, voilà, de guerre atomique.
Le poste de commandement Jupiter, et vous allez incarner qui dans le film, le président
Non, j'incarne un militaire, et donc c'est un film d'Alexandre Smia, et qui est vraiment impressionnant, parce que c'est sur la guerre qu'il y a en ce moment, que fait la Russie à l'Ukraine, et c'est là que le président de la République française, que joue Denis Ménochet, doit prendre des décisions. Il est entouré de son gouvernement. C'est un film très intense, très, très fort.
Et on parlait d'héritage. Il y aura Claude aussi. Un frère et une sœur qui sont contraints de se partager la garde de leur père.
Oui, c'est l'inverse de Tanguy. En fait, c'est les enfants qui sont obligés de s'occuper de leur père, voilà, qui est un peu à volo et qui a été viré de chez lui. lui et de sa et de l'habitation qu'il partageait avec sa compagne. Et donc les voilà, il est un peu loufoque, un peu il a peut-être en l'air, et donc c'est les enfants qui ont autre chose à faire, qui doivent s'occuper de leurs parents. Vous savez qu'il y a une loi, il y a Tanguy, c'est les parents qui doivent s'occuper de l'enfant quand il n'était pas autonome, et puis après ça s'inverse, c'est les enfants qui doivent s'occuper des parents qui déglinguent un peu.
Voilà. Ouais, c'est ça.
J'espère que Tanguy le sait. Hein.
Voilà. Je pense que Tanguy est au courant. Daniel, des excuses peut-être.
Oui, deux petites excuses. Oui. Déjà, désolé pour Pauline Clément qui, on l'a bien compris, a le sentiment d'avoir raté sa vie. La comédie française, le ciné, ok, ça l'occupe, mais son truc, sa mission, son ultimate goal for fulfillment, c'était d'ouvrir un spa. Oh, Pauline, mais faut y croire, c'est jouable. Un emprunt à la banque, trois bâtons d'encens, un bidon d'huile essentielle, le guide du petit bambou, et hop, c'est parti. Désolé maintenant, et enfin pour André Dussolier. André, j'ai eu vos enfants au téléphone et ils sont super d'accord. Ne pas attendre la mort pour distribuer le pognon. Et même, ils se le disaient, pourquoi pas maintenant. Ils sont à la sortie du studio, ils ont leur rib à la main.
Merci André Dussolier, merci Pauline Clément de la Comédie Française d'avoir été avec nous. Demain, on sera avec Delphine de Vigan pour parler de son tout nouveau roman.